Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay-Lamarche. Aujourd'hui, ce soir, nous parlons de Noël au temps des carrioles, de l'histoire des traditions de Noël, car nous sommes ce soir en compagnie de Marie-Ève Ouellette. Bonsoir Marie-Ève.
Bonsoir.
Pour parler de l'histoire des traditions de Noël, de l'histoire en fait de Noël à Québec et plus spécifiquement d'un petit ouvrage qu'elle vient de publier avec Émilie Guilbeault-Cahier, « La Noël au temps des carrioles, le temps des fêtes à Québec du 17e au 20e siècle ». Et donc, je vous présente brièvement mon invité. Marie-Ève Ouellette est historienne, chargée de cours, professeure associée à l'Université de Sherbrooke. Elle est spécialiste de l'histoire du régime français, elle a notamment fait un excellent ouvrage sur l'intendance dans lequel elle compare le métier d'intendant au 18e siècle en France et en Nouvelle-France. Elle explique en fait qu'est-ce que ça faisait grosso modo un intendant à cette époque-là. Et de ses recherches sur la Nouvelle-France, c'est également une experte en vulgarisation historique. Elle avait fondé la compagnie des six associés avec des collègues historiens qu'elle a animé pendant de nombreuses années. Ce livre émane des visites qu'elle a faites là avec les six associés et actuellement elle travaille au ministère de la Culture sur la politique de commémoration. Ah bon. Et donc, bonsoir.
Bonsoir Alex.
Et la question qu'on aime toujours poser à nos invités lorsqu'ils arrivent, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet-là, à l'histoire des fêtes, à l'histoire de Noël?
Bien, en fait, comme tu le disais, au sein des services historiques six associés, compagnie que je n'ai pas fondée, mais que j'ai dirigée là, pendant plusieurs années, de 2007 à 2015, c'était une compagnie d'animation où on faisait des visites guidées dans le Vieux-Québec, des visites sur divers thèmes de l'histoire de Québec. Et la Noël au temps des carrioles, bien, c'était une des visites qu'on offrait, évidemment, à la période des fêtes. Et voilà, donc, dans le cadre de la collection de circuits guidés qu'on a publié chez les éditions du Septentrion, bien, on avait envie, là, pour un quatrième livre de la collection, de se lancer dans la thématique de Noël.
Et justement, parlez-nous un peu plus de cet ouvrage. Dans quelle série est-ce qu'il s'inscrit? Parce que ce n'est pas le premier.
Bien, c'est ça. C'est que c'est une collection qui est un peu particulière. Ce sont des livres-circuits, en fait. Donc, les livres sont structurés comme des circuits, c'est-à-dire que chaque chapitre est une station. Et vous avez une carte du trajet à l'intérieur. Et pour chacune des stations, vous avez des photos, vous avez les indications du trajet à faire dans le Vieux-Québec. Et dans chacune des stations, vous avez bien évidemment des informations sur l'histoire du sujet qui est traité dans chaque station. Alors, on peut faire le livre confortablement assis dans son divan avec Google Maps, ou alors on peut le faire en allant se promener dans le Vieux-Québec et s'arrêter à chaque endroit pour lire le chapitre.
Et sur ce, eh bien, on se lance en musique avant de poursuivre plus amplement notre visite au cœur du Vieux-Québec à la poursuite des traditions de Noël. On commence avec le Yesus Ahun Toya. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot?
Bien, en fait, c'est une pièce très bien choisie parce que c'est une des rares pièces, sinon la seule, qui aurait été chant de Noël composée en Nouvelle-France. Et c'est un chant qui est attribué au jésuite Jean de Brébeuf, qui aurait adapté une pièce en mettant des nouvelles paroles pour expliquer la nativité en langue huronne aux Hurons chez qui il était en mission au 17e siècle. Et ce qui est particulier de ce chant, c'est que la tradition orale chez les Hurons aurait permis à ce chant de se transmettre jusqu'à nous, parce que bien après le décès de Jean de Brébeuf, au 18e siècle, un autre missionnaire aurait entendu ce chant et l'aurait consigné par écrit, parce qu'il s'était transmis par la tradition orale. C'est donc vraiment là une pièce qui s'est transmise jusqu'à nous, parce qu'elle avait dû plaire aux Hurons. Hein.
Donc, on va l'écouter, on va espérer qu'elle vous plaise. C'est dans une interprétation de l'ensemble Claude Gervaise.
Jesus,
c'était le Jesus Ahantonia, interprété par l'ensemble Claude Gervaise, pièce qu'on attribue au jésuite Jean de Brébeuf, comme nous le disait notre invité juste avant la pause musicale. Et donc, ce soir, on reçoit Marie-Ève Ouellette pour parler de l'histoire de Noël à Québec, de l'histoire des traditions des fêtes, puisqu'elle vient de publier un petit ouvrage, La Noël au temps des carrioles, un ouvrage richement illustré dans lequel on trouve plusieurs gravures qui ont été publiées dans des journaux du 19e siècle, plusieurs aussi images des débuts de la Nouvelle-France, l'habitation de Champlain, les premiers sapins de Noël, ce genre de choses-là qui, eux arrivent plus tard qu'on va le voir tout à l'heure. Comment s'est passée la recherche iconographique? Où est-ce que vous avez trouvé ces photos-là?
Bien, dans cet ouvrage-là, la recherche iconographique a été particulièrement amusante, je dirais. En fait, on avait, la chance qu'on a quand on fait des recherches sur Noël, c'est qu'on sait à quelle date chercher dans les journaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est que l'ouvrage porte du 17e au début du 20e siècle, jusqu'en 1918 plus précisément, mais de la fin du 19e au début du 20e siècle, on est allé chercher les journaux dans les bases de données de BANQ numérique, pour ne pas les nommer. Et en faisant une recherche par date et tout ça, on a pu aller feuilleter finalement. Donc, pendant la Saint-Jean-Baptiste, le week-end férié cette année, Émilie Guilbeault-Caillé et moi, on s'est fait une plongée dans les journaux de la période des fêtes, fin 19e, début 20e siècle, dans Le Soleil, d'autres journaux, le Chronicle, le Telegraph, des journaux anglophones qui n'existent plus, mais qui avaient un bon tirage à l'époque. Donc, en allant dans plusieurs journaux comme ça, on était en mesure d'aller chercher des publicités qui sont une source incroyable pour documenter non seulement ce qui se vendait, mais aussi l'évolution des traditions à travers ce qui se vend dans les magasins.
Effectivement. Et l'idée de l'ouvrage, c'est toujours de nous transporter à une date précise. Dans ce cas-ci, 1918. Pourquoi cette année en particulier pour parler de Noël?
Bien, le circuit se déroulait plus à la fin du 19e siècle. Le concept des circuits des six associés, c'était toujours que c'était un personnage costumé qui animait. Donc, le personnage était campé dans une époque précise et le personnage pouvait parler de ce qui précédait son existence et non pas de ce qui le suivait. C'est le même concept qu'on a repris pour les livres en campant finalement dans le préambule le livre dans une année particulière et on raconte ce qui précède. Par contre, pour transformer le circuit en livre, on a pensé le pousser un peu plus loin dans le temps et on trouvait que la Première Guerre mondiale, c'était une césure intéressante parce que vraiment, on est dans une période de transition là, avec vraiment l'époque victorienne qui se termine, là, les années folles s'en viennent et puis on est vraiment dans une période aussi avec la fin de la Première Guerre mondiale où on trouvait le contraste entre la fin d'une époque particulièrement dramatique et cette fête de Noël. On trouvait ce contraste-là intéressant. Et de fait, vous trouvez aussi dans le livre, ça c'est quelque chose qu'on a découvert dans nos recherches, mais vous trouverez dans le livre une illustration notamment extrait d'un journal où vraiment on fait le lien entre, c'est le magasin Paquette qui souhaite joyeux Noël en cette époque de réjouissance avec toutes les années dramatiques qu'on vient de passer. Donc on trouvait le contraste intéressant et ça nous permet de parler de tout ce qui précède.
Effectivement. Et si on remonte au tout début de la Nouvelle-France, parce que votre première station devant le monument à Champlain remonte au début de la Nouvelle-France, au tout début justement des célébrations de Noël. À quand remonte le premier Noël sur le territoire?
En fait, pour l'époque de la Nouvelle-France du 17e siècle, la première moitié du 17e siècle, on n'a pas beaucoup d'informations. On peut en déduire que le premier Noël, c'est le premier hivernage de Jacques Cartier, l'hiver 1535. Évidemment, il était ici pendant l'hiver, donc on en déduit que c'est le premier Noël, mais dans les récits de Cartier, il n'y a pas d'informations sur Noël en particulier. On sait simplement qu'ils ont eu froid, que le vin a gelé dans les barriques, ce genre de choses. Donc, on suppose que ce n'était pas très festif. À l'époque de Champlain, dans les premières années non plus, on n'a pas beaucoup d'informations. On suppose évidemment que les gens ont perpétué leur propre tradition, puis qu'il y a eu une messe à la chapelle de l'habitation, mais c'était sans doute assez peu de choses. Les informations dont on dispose, qui sont les plus précises, c'est souvent dans les récits des missionnaires qu'on les trouve, où là, on va raconter comment Noël est vécu, notamment en contexte de mission. Mais c'est surtout chez les missionnaires là, qu'on trouve des informations là, dans les premiers temps de la Nouvelle-France. Et bon, l'événement le plus extraordinaire qui se passe le jour de Noël dans la première moitié du 17e siècle, ben, c'est la mort de Champlain survenue le 25 décembre 1635. Alors, c'était un beau clin d'œil aussi devant le monument Champlain de parler de Noël.
Effectivement, et vous me parliez des missionnaires et des fêtes de la nativité chez les Autochtones. On a entendu il y a quelques instants bon, ce chant, le Jesus Antoya, qui avait été composé pour essayer d'adapter bon, Noël aux langues autochtones, puis bon, aux traditions autochtones. Comment les Autochtones vont accueillir cette fête-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont trouver intéressant, quelque chose qu'ils vont fêter?
C'est sûr et certain que quand on parle des Autochtones, bien, on n'a pas de récit de leur part. Hein? Les seules informations, dont, bien, c'est un lieu commun, mais c'est toujours ça le problème. On n'a que les sources qui émanent des missionnaires. Donc, et évidemment, les missionnaires n'auront pas intérêt à dire « on a fait tel truc, ça n'a pas marché, ils s'en foutent de Noël ». Bon. Hein, je caricature, mais bon. Par contre, dans les récits des missionnaires, ce qu'on peut voir, c'est les efforts pour expliquer la nativité aux différents peuples chez qui on est, dépendant. Par exemple, la pièce Jesus Antoya, dans les paroles, ce qu'on comprend, c'est que la crèche, les matériaux de la crèche ont changé pour des matériaux qu'on trouve dans les forêts québécoises de l'époque. Les rois mages sont changés par des chefs. Donc, on adapte pour qu'on fasse comprendre l'histoire de la nativité. C'est sûr que plusieurs missionnaires vont parler du fait que c'est une fête populaire, que la crèche est un rituel qui a beaucoup de succès. Est-ce que c'est la mise en scène? Est-ce que c'est la décoration? Est-ce que c'est le côté festif? On ne saura jamais vraiment comment ça a été réellement reçu, mais il y a quand même dans les relations des Jésuites, notamment, quelques traces là, comme quoi la nativité, c'était quelque chose, un message qui passait bien. Probablement que c'est une histoire universelle, la naissance, la famille, des choses qui s'expliquent bien aussi.
Et du côté des colons, ça ressemblait à quoi les fêtes de Noël au 18e siècle? Mettons quand bon, on a une Nouvelle-France un peu plus établie avec bon, plusieurs villages et que bon, on a des familles, ça ressemble à quoi?
Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'époque du régime français, Noël, c'est pas du tout l'occasion de réjouissance, la fête très festive qu'on a aujourd'hui. C'est un jour religieux. C'est la fin de l'Avent, hein, qui est un cycle de pénitence, de prière, de privation. La fête de Noël est essentiellement religieuse. On va à l'église, on va à la messe. Il peut y avoir un repas de Noël, mais on n'est pas du tout dans les réveillons puis dans l'image qu'on se fait aujourd'hui de ça. En Nouvelle-France, c'est surtout le jour de l'an qui est un jour de réjouissance où on va se visiter, on va en reparler tantôt, mais où on s'échange les vœux. La fête de Noël, c'est une journée religieuse tellement que Raymond Monpetit, qui a publié il y a une trentaine d'années un ouvrage sur l'histoire de Noël, avait trouvé des traces dans les archives comme quoi la date de Noël, le 25 décembre, pouvait même servir d'échéance pour des paiements, notamment si on loue une vache ou un bœuf ou n'importe quoi. Donc, pour vous dire vraiment, il n'y a pas de sens particulièrement réjouissant, festif là, à la fête de Noël. C'est une journée religieuse, une journée... Voilà.
Mais si c'est une fête principalement religieuse, ça exclut pas certains débordements, comme on le voit dans votre livre.
Oui. Bien, en fait, encore une fois, là, on est tributaire des sources. Hein? Donc, c'est sûr que quand on est dans des sources des missionnaires, des religieux, des évêques, on a toujours tendance à dénoncer l'ivrognerie puis les petits débordements pendant la messe de minuit. C'est assez rigolo de voir les récits là, qui sont faits d'enfants de cœur qui ont bu un peu trop de vin de messe, de gens qui ont bu un petit peu trop de... qui ont commencé la fête un petit peu plus tôt sur le parvis de l'église. Donc, on a des anecdotes quand même comme ça pour le 17e siècle de débordement. Mais ce qui est quand même amusant, c'est de voir que l'alcool est associé quand même à Noël déjà à cette époque-là. Puis à la fin du 18e siècle, sous le régime britannique, il y a même un évêque catholique qui va songer à abolir pour quelque temps la messe de minuit, justement en raison des débordements. Finalement, la messe de minuit va continuer à se faire. Mais c'est assez intéressant de savoir que chez les religieux, évidemment, l'ivrognerie est fortement dénoncée. Donc, la messe de Noël est associée à certains débordements, mais probablement qu'il n'y avait pas plus de débordements que les autres jours de l'année. C'est dans les sources que ces anecdotes-là ressortent davantage.
Et lors de la conquête, on a un nouvel occupant qui arrive avec une nouvelle approche par rapport à Noël. Qu'est-ce que la conquête change dans la façon dont on célèbre Noël en Nouvelle-France?
Ce qu'on a cru comprendre, c'est que, d'une part, chez les catholiques et les protestants, on continue de fêter Noël comme on le fait. La conquête de la Nouvelle-France ne change rien au rituel proprement religieux de la fête de Noël. Pendant plusieurs décennies, catholiques et protestants ont leur propre rituel, leur propre façon de faire. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, on est tributaire des sources, c'est dans le récit que font certains voyageurs anglophones qui passent dans le coin, qui vont raconter comment ça se passe Noël chez les catholiques. Et eux, leur récit nous montre finalement qu'est-ce qui pour eux était étrange. Ça nous permet d'avoir des informations sur ce qu'ils faisaient. Notamment l'ornementation des églises, le rituel de la crèche qui était jugé un peu singulier. Aussi, un autre truc dont on parle à la fin du 18e siècle dans certains récits de voyageurs, c'est le rituel de se visiter le jour de l'an. Les maîtresses de maison sont là pour accueillir tout le monde. Et puis, comme tout le monde connaît tout le monde, finalement, chaque maîtresse de maison se fait embrasser sur la joue par à peu près tous les hommes de la ville parce que tout le monde se visite pendant une même journée. Et ça, c'est une tradition qui est jugée un peu étrange par certains voyageurs. Mais voilà, les récits nous permettent de voir quand même certaines différences. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a là deux religions qui fêtent Noël séparément.
Et sur le plan alimentaire, l'arrivée des Britanniques va changer beaucoup de choses dans la façon dont on fête Noël.
Oui, en fait, sur le plan des traditions, si on fait exception de la religion en tant que telle, des rites, c'est plutôt sur le plan culturel, notamment alimentaire, qu'on voit là un certain mélange qui se fait avec l'immigration en provenance des îles britanniques au 19e siècle. Pour rappel, on a des vagues d'immigration très importantes d'Irlandais, d'Écossais. Bon, on avait des Anglais aussi. On a toutes sortes de cultures qui vont cohabiter à Québec. Québec, à un certain moment, au 19e siècle, est à 40% anglophone. Ça, on a tendance à l'oublier. Alors, on a plusieurs cultures qui cohabitent et avec, évidemment, ce régime britannique, les importations ne sont pas les mêmes, les produits offerts ne sont pas les mêmes. Et ce qui va se passer, c'est que plusieurs mets associés au temps des fêtes dans l'imagerie de Noël chez les Québécois sont en fait issus des traditions culinaires britanniques et non pas françaises.
Un exemple, c'est
les marinades. Si vous allez en France encore aujourd'hui, moi, ma belle famille est française, il n'y a jamais de marinade sur les tables à Noël. Encore, c'est vraiment pas quelque chose qui est de culture culinaire française. C'est vraiment les ketchup aux fruits, les cornichons. Ces choses-là, c'est vraiment plutôt britannique. La question des pâtés au porc aussi. Les tourtières, etc. En Nouvelle-France, on utilise le porc surtout comme source de gras, le lard, pour faire la cuisine, mais pas la viande de porc en tant que telle. C'est vraiment sous le régime britannique qu'on commence à faire des pâtés au porc. Il y a aussi c'est pas strictement lié à la culture britannique, mais la dinde fait son apparition au 19e siècle sur les tables. Avant, on ne mangeait pas ça nécessairement tout le temps. Donc, vraiment, il y a aussi les desserts.
Ouais, le gâteau aux fruits.
Le plum pudding, le gâteau aux fruits, toutes sortes de desserts comme ça qui sont vraiment de tradition culinaire britannique. Et tout ça va se mélanger et faire une bouffe de réveillon là, qui est le résultat d'un certain mélange des cultures, quelque part.
Et vous le mentionnez dans votre ouvrage, Noël se redéfinit énormément à l'époque victorienne. C'est une époque qui, va avoir un impact important sur la façon dont on célèbre Noël dans l'Empire britannique, mais également, c'est ça, au Québec qui en fait partie. Quels sont ces changements qui se produisent à l'époque victorienne?
L'époque victorienne, donc c'est le règne de la reine Victoria qui va être là des années 1830 jusqu'à 1901, si je me souviens, le décès de la reine Victoria. Donc une période là, de plusieurs décennies. Sur le plan culturel, il y a beaucoup de changements qui se produisent, mais aussi sur le plan social et économique, c'est l'industrialisation, l'urbanisation. Donc il y a plein de choses qui se passent. À l'époque victorienne, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de traditions de Noël qui nous arrivent par l'industrialisation. l'influence britannique, l'influence de la famille royale, des traditions qui sont parfois même d'origine allemande, puisque le mari de la reine Victoria est d'origine germanique, et qui vont, par le biais de la famille royale et de la culture britannique, s'en venir par ici. Mais avant ça, il faut parler aussi du changement de Noël qui, chez les Britanniques et les Américains, va devenir une fête un petit peu plus familiale, quitter un peu le côté strictement religieux qu'elle avait, pour devenir plus la fête familiale que l'on connaît aujourd'hui tranquillement à cette époque-là.
Et l'une des personnes qui va avoir un impact sur la façon dont on va fêter Noël et dont Noël se redéfinit à cette époque-là, c'est l'écrivain Charles Dickens. Dans votre ouvrage, vous dites que, vous posez la question, est-ce qu'il serait l'inventeur du Noël victorien? Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on peut dire que Charles Dickens est l'inventeur du Noël victorien?
C'est toujours délicat d'attribuer à un auteur, évidemment. C'est un mélange de plein de phénomènes, mais Charles Dickens est très important parce qu'il va publier en 1843 un conte de Noël, A Christmas Carol. Dans ce conte-là, je crois que beaucoup de gens ont déjà vu une version ou l'autre des films.
Ouais, soit celle de Disney.
Celle avec les mopettes. En tout cas, il y a eu beaucoup de versions de Christmas Carol. Mais bon, c'est un avare cruel, Monsieur Scrooge, qui reçoit la visite de trois fantômes qui vont lui apprendre quelles sont les vraies valeurs qui devraient guider la fête de Noël. Et vous avez aussi dans ce conte la famille Cratchit, dont un des enfants est infirme, mais pourtant une famille unie et tout ça. Et voilà, donc ce conte de Noël-là va avoir un immense succès et va même devenir un rituel là, de lire ce conte-là la veille de Noël en Grande-Bretagne, puis ensuite aux États-Unis. Et vraiment, avec A Christmas Carol, mais comme je vous dis, il y a plusieurs choses qui sont en jeu, mais vraiment, on est à une époque où la famille devient un refuge aussi à l'époque victorienne. Le monde extérieur, la ville, les conditions de travail, les conditions de vie qui sont difficiles, la famille devient cette espèce de refuge, finalement. Et la fête de Noël va devenir un peu plus familiale et beaucoup plus populaire, notamment à cause de l'influence de ce livre, parce que la fête de Noël n'était pas très populaire dans le monde anglo-saxon au début du 19e siècle et elle va gagner en popularité par la suite.
Et du côté des Canadiens français, est-ce qu'on voit bien l'impact de Dickens ou est-ce qu'on le voit plus du côté plus de la communauté anglophone de Québec?
C'est plutôt du côté anglophone que Christmas Carol arrive. C'est sûr que du côté des Canadiens français, au 19e siècle, on est encore dans ce schéma traditionnel où Noël est une fête religieuse, mais c'est le jour de l'an qui est la journée de festivité où on échange les vœux et où on se visite. Ça, c'est plus dans la deuxième moitié du 19e siècle où là, on va commencer à avoir une espèce de mélange Noël jour de l'an là, et que les choses vont évoluer. Mais à l'époque de Dickens, on est encore dans une façon traditionnelle là, chez les Canadiens.
Donc, si je vous comprends bien, au 19e siècle, on a comme deux Noëls parallèles, un plus dans la communauté anglophone qui est davantage inspiré de l'Empire britannique, puis un qui est du côté canadien-français, qui est plus inspiré des traditions de la Nouvelle-France et tranquillement, les deux vont se mélanger.
Mais c'est ce que dans la deuxième moitié du 19e siècle, ce qui se produit, c'est qu'il y a vraiment une influence puis un mélange, mais là, d'un côté, vous avez des gens qui se donnent des cadeaux puis qui se donnent des vœux à Noël, et là, vous en avez d'autres chez les francophones qui, eux, se donnent des étrennes et s'échangent les vœux au jour de l'an. Et là, on va voir apparaître là, un mélange dans la deuxième moitié du 19e siècle où là, on va voir apparaître ce qu'on a appelé un temps des fêtes où finalement, on a les deux traditions qui cohabitent. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, les publicités sont vraiment une source incroyable pour voir cette évolution-là. Les deux cohabitent dans les publicités pendant assez longtemps. Et d'ailleurs, jusque dans certaines régions québécoises, dans les campagnes, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on se donnait encore des cadeaux au jour de l'an. Donc, ce sont des traditions qui mettent du temps là, à se changer.
Effectivement. Et sur ce, on s'en va en musique avec « Où s'en vont ces gays bergers », une pièce qui vous dit peut-être rien vite comme ça, mais dont vous risquez de reconnaître la musique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, Mme Ouellette?
Bien, « Où s'en vont ces gays bergers », c'est une pièce... En fait, c'est assez représentatif de ce qui se passe avec des chants très anciens qui sont souvent des mélodies profanes où des religieux ont mis des paroles religieuses rattachées à Noël. Donc, à l'époque de la Nouvelle-France, on va avoir plusieurs chants de Noël comme ça qui vont naître à partir de chansons profanes que les gens connaissaient et on a superposé des nouvelles paroles.
Et donc, on s'en va avec « Où s'en vont ces gays bergers » dans une interprétation de l'ensemble Nouvelle-France.
Où s'en vont ces gays bergers? Hey, salut, ça va?
Ben oui. Puis, qu'est-ce que ça fait en fin de semaine?
Bon, pas grand-chose, je me suis reposé.
Ah, c'est plate.
Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine.
Bon, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine, le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi sur Chiz 94.3.
On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils.
Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique.
Parce que le blues, ça se vit.
Tu aimes la politique et entendre du monde chialer? Ne manque pas la nouvelle émission sur les ondes de Chiz 94.3, L'affaire et politique.
Au menu, une foule d'invités questionnés sans filtre, des chroniques divertissantes, nouveaux genres, et le tout offert par une équipe de passionnés politiques.
C'est un rendez-vous tous les lundis matins de 9h à 11h de bonne et de mauvaise humeur sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 13h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3.
Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, d'improvisation, du théâtre, de l'annonce du cinéma et même du monde qui passe à TV! Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratuits! Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, comme vient de vous le rappeler Émilie Rioux dans cette publicité de Chérie J'arrive. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire et ce soir, on reçoit Marie-Ève Ouellette pour parler de l'histoire des fêtes, de l'histoire de Noël et du jour de l'an à Québec, puisqu'elle vient de publier avec Émilie Guilbeault-Cahier un petit ouvrage fort sympathique sur ce sujet chez les éditions du Septentrion et elle vient nous en parler ce soir. Juste avant la pause, bon, on avait évoqué un petit peu bon, les différentes traditions arrivent avec le régime britannique et dont, c'est ça, on avait parlé un petit peu des traditions alimentaires, mais bon, il y a également le sapin de Noël qui arrive avec les Britanniques. Que pouvez-vous nous en dire? Comment est-ce que ça arrive, le sapin de Noël, au Québec et à Québec?
Le tout premier sapin de Noël répertorié, on pourrait dire, ça aurait été fait dans les années 1780, dans le coin de Sorel. C'est un général d'origine germanique qui aurait fait un sapin de Noël, ce qui est logique puisque c'est une tradition qui vient d'Allemagne, le sapin, le fait de décorer des sapins de Noël. Et de fait, mais par contre, il n'y a pas de suite nécessairement documentée à ça. Là. Ça semble être
un événement isolé.
Après ça, ça va au milieu du 19e siècle, vraiment, où là, la tradition des sapins de Noël va commencer à se répandre via l'influence de la famille royale britannique. C'est sûr que tout ce que fait la famille royale va avoir une influence sur le plan culturel. La reine Victoria, son époux, là, Albert, oui. Qui est de culture allemande, va faire, dans les années 1840, un sapin à la cour d'Angleterre. Et par la suite, il va avoir des illustrations publiées dans les journaux. C'est d'ailleurs une de ces illustrations qu'on a utilisées pour illustrer en filigrane la couverture de l'ouvrage. C'est une illustration, en fait, qui va se répandre, qui va être publiée et l'influence de la famille royale. Ces images-là vont être publiées dans des journaux en Europe et aussi aux États-Unis. Et la tradition du sapin de Noël va gagner en popularité. Et c'est vraiment, par contre, dans la deuxième moitié du 19e siècle, là, où on
commence à faire des sapins de Noël ici davantage.
Et on les décore comment, ces sapins de Noël?
Mais c'est sûr que dans les premiers temps, on ne les décore pas en allumant avec des guirlandes électriques, puisque l'électricité n'existe pas, bien sûr. C'est vraiment à la toute fin du 19e siècle, les premières guirlandes électriques. Mais avant ça, on mettait toutes sortes d'autres décorations. La tradition de mettre des guirlandes, des fleurs, des étoiles, des instruments de musique, toutes sortes de choses,
des oiseaux. Boules?
Les boules aussi, ça, c'est une tradition, encore une fois, d'origine allemande qui va devenir populaire là, à peu près à partir des années 1830. Et elles vont devenir de plus en plus populaires et de plus en plus variées aussi là, dans les motifs et dans les formes. Donc, on met des fleurs, on met toutes sortes de choses dans les sapins de Noël. Je parlais de la guirlande électrique. Au départ, on mettait des bougies pour éclairer les sapins. C'est sûr que moi, à chaque fois que je lis ça et que je vois des gravures, j'espère qu'il y a des domestiques qui veillaient au sapin en question pour éviter les drames.
Bon, mais sapin sec avec des chandelles dedans.
Exactement. Et donc, au départ, c'était des bougies. Après ça, ça va être des guirlandes. Mais ce qu'on observe aussi dans les images de l'époque, c'est que c'était pas au départ des grands sapins comme ce qu'on trouve ici. En Europe, il y a beaucoup moins d'arbres disponibles. Les arbres ont une grande valeur. On prend plutôt des petits sapins de à peu près 5 ou 6 étages de branches et ce sont des sapins qu'on pose sur des tables. C'est pas nécessairement la même chose. Donc, le sapin, vraiment, là, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça va se répandre ici là, assez rapidement.
Et outre le sapin, de quoi est-ce qu'on décore les maisons et les rues à Noël?
Bien, on décore avec des fleurs séchées, on fait des gerbes, on fait des guirlandes. Les couronnes aussi, c'est une autre tradition d'origine, encore une fois, d'origine allemande. Il y a différentes façons de faire des couronnes, mais dans la culture anglo-saxonne, la couronne, on la pose sur la porte ou à une fenêtre. C'est un signe d'hospitalité. On fait encore ça au Québec, poser des couronnes sur les portes d'entrée. C'est une tradition qui va se populariser de ce côté-ci de l'Atlantique au 19e siècle. Donc, on décore l'intérieur des maisons. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, là, au moment où les sapins vont commencer à être populaires, on va commencer aussi à décorer davantage les maisons. C'est sûr que dans les maisons en ville où on a accès plus aux magasins avec des marchandises à acheter, ça va prendre un petit peu plus d'ampleur. Mais vraiment, à l'époque victorienne, là, déjà, là, on a comme coutume là, de décorer de plus en plus les maisons.
Et du côté du Père Noël, à quand remonte son apparition?
Ah bien ça, c'est une question piège. Le Père Noël, vraiment, là, avec Émilie, quand on a écrit l'ouvrage, c'était difficile de résumer vraiment les origines du Père Noël.
Elles
parce qu'il y a beaucoup, oui, il y a
beaucoup,
dans plusieurs cultures, il y a des formes de Père Noël, c'est-à-dire de gens qui viennent distribuer des cadeaux. C'est pas toujours le même personnage. Il y a Santa Claus, il y a le Père Noël, il y a Bonhomme Noël, il y a Saint-Nicolas, il y a toutes sortes de versions du personnage. Mais au 19e siècle, c'est sûr que, notamment par la littérature, par des poèmes publiés aux États-Unis, il y a une figure là, de Santa Claus là, qui va se développer puis devenir de plus en plus populaire. Puis dans la deuxième moitié du 19e siècle, encore une fois, avec les journaux illustrés qui, à cette époque-là, là, sont de plus en plus présents et populaires, eh bien là, on va avoir une imagerie du Père Noël qui va se développer avec l'influence de certains graveurs dans les journaux qui vont proposer une image du Père Noël. Et là, par mélange culturel, ça va finalement se rendre jusqu'ici et influencer aussi au Québec les illustrateurs pour en arriver à un Père Noël qui, rendu au début du 20e siècle, là, commence à se rapprocher du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui, qui est beaucoup influencé par l'imagerie de Coca-Cola. Mais déjà au début du 20e siècle, avant toute l'histoire de Coca-Cola, on avait déjà des Pères Noël barbus avec des manteaux rouges, avec la hotte, avec les cadeaux. On a la question de la cheminée, du traîneau, les vœux, les lettres que les enfants écrivent au Père Noël. Donc, tous ces motifs-là, c'est par des gravures dans les journaux, beaucoup, là, que ces motifs-là vont se populariser, puis on va en arriver à une version du Père Noël qui va ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Et à Québec, quand est-ce qu'il arrive dans les magasins?
Mais le Père Noël, ce qui est intéressant à Québec, c'est qu'on a une tradition déjà très ancienne qui date de plus d'un siècle. En 1906, on a le tout premier défilé du Père Noël organisé par le magasin Paquette. Le magasin
dans les
Paquette,
rues,
oui. Donc, c'est une tradition qui est déjà très ancienne. Aujourd'hui, on a encore des défilés du Père Noël chaque année. Mais avant même qu'il y ait des défilés de la sorte à Montréal, c'est à Québec, le magasin Paquette, en Basse-Ville, qui organisait un défilé du Père Noël. Et le Père Noël arrivait en train. Il arrivait à la gare du Palais, à partir là, de la construction de la gare du Palais, évidemment. Et ensuite, il se promenait dans les rues jusqu'au magasin Paquette, où là, il allait évidemment s'installer dans un endroit qu'on appelait le paradis des jouets ou le royaume des jouets, dépendant des versions. Et dans le paradis des jouets, il allait être là pour accueillir les enfants. Donc, on a vraiment toute une mise en marché de Noël, des jouets, qui se fait autour du Père Noël et du défilé dès le tout début du 20e siècle.
Et outre le sapin, les décorations, puis le Père Noël, c'est quoi les autres éléments qu'on associe à l'imagerie de Noël à cette époque-là?
Quand on regarde les journaux, les illustrations, ben on a aussi la carriole. Hein. C'est pour ça que le livre titre s'appelle Noël au temps des carrioles. C'est évidemment la carriole, c'est un moyen de transport hivernal qu'on utilise pendant toute la saison, pas simplement à Noël. Mais on remarque que au 19e siècle, c'est beaucoup associé. La carriole est beaucoup associée à l'imagerie de Noël, le retour de la messe de minuit. On a des illustrateurs célèbres comme Massicotte qui va illustrer la sortie de la messe où on a tout le monde sur le parvis, on a le clair de lune, on a les gens dans leur carriole avec leur ce qu'on appelle des peaux de carriole, donc des fourrures qui sont là pour nous réchauffer. On a les clochettes, les grelots. Donc, c'est toute une imagerie de Noël à laquelle la carriole est associée à cette époque-là dans les illustrations qui paraissent dans les journaux.
Et avant de repartir en musique, justement, puisqu'on parle de musique, à quand remonte cette tradition-là? Vous nous en avez glissé un petit mot tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez développer davantage sur la tradition des chants de Noël?
Les chants de Noël au Québec, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on remarque que les Christmas carols et les chants de Noël des Canadiens français ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas eu de mélange nécessairement à ce niveau, au niveau des chants. On a vraiment des chants différents en français et en anglais qui cohabitent. Et du côté des chants français, plusieurs de ces chants remontent à l'époque de la Nouvelle-France. Pas tous. On a des chants français qui nous arrivent de la France encore au 19e siècle, comme « Il est né le divin enfant » ou « Les anges dans nos campagnes », qui sont des chants qui, semble-t-il, deviennent plus populaires ici au 19e siècle, mais on en a d'autres beaucoup plus anciens, comme « Sa berger, assemblons-nous », qui s'appelait « Où s'en vont ces gais bergers », comme on a entendu tout à l'heure. Et ce sont souvent des chants qui sont des airs très, très anciens, dont certains remontent au Moyen Âge, qui au départ étaient des chansons dans un patois régional, et dont les paroles vont souvent être changées au 17e, 18e siècle, par des religieux qui vont superposer des paroles en français et des paroles pieuses à des chansons profanes qui existaient pour que les gens puissent se les approprier et les chanter. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va publier au 18e siècle, au 17e siècle, des recueils de cantiques de Noël, et c'est ce qui va permettre à ces chansons-là aussi là, de se répandre et de s'en venir ici en Nouvelle-France. Donc, on a une tradition de chants de Noël qui est très ancienne, qui est très intéressante, et on a certains chants de Noël qui se transmettent aussi par la tradition orale et qui vont finir par changer un peu de parole aussi, comme la chanson « D'où viens-tu, bergère? » dont les paroles ne sont pas tout à fait les mêmes en France qu'au Québec. Et certaines de ces chansons-là, comme « D'où viens-tu, bergère? » se chantaient comme des berceuses durant toute l'année. On a donc je dirais vraiment que les chansons de Noël, c'est un patrimoine là, très, très intéressant qui se transmet, entre autres, beaucoup par la tradition orale.
Et sur ce, on s'en va avec le Minuit chrétien, interprété par Richard Véraud, alors que la première interprétation connue au Québec n'est pas le fait d'un homme.
Oui, le Minuit chrétien, on peut terminer sur l'anecdote du Minuit chrétien. C'est Ernest Gagnon, un musicien que peut-être les gens qui étudient ici en musique à l'Université Laval connaissent bien le mot Gagnon à cause de la salle Henri Gagnon. Mais la famille Gagnon, c'est trois générations d'organistes à la cathédrale de Québec. Le premier étant Ernest Gagnon, qui a laissé vraiment sa marque dans le domaine des chants Noël, puisqu'il a fait un recueil cantique du Canada français, où il a rassemblé des chants de Noël qu'il a harmonisés à quatre voix mixtes. Et ces chants-là, ces harmonisations-là, étaient tellement populaires au 19e siècle, c'est-à-dire au 20e siècle, ça a été publié en 1897. Ils ont été tellement populaires qu'ils ont fini par éclipser un peu tous les autres chants qui n'étaient pas dans ce recueil-là. Mais Ernest Gagnon, vraiment, on peut quand même dire que c'est un peu grâce à lui que certains chants anciens sont encore chantés aujourd'hui. Et c'est Ernest Gagnon qui, lors d'un séjour à Paris, aurait entendu pour la première fois le Minuit chrétien, qui s'appelait aussi aussi le Noël d'Adam, du nom de son compositeur, mm-hmm. Adolphe Adam. Et il avait tellement aimé ce chant-là que dès son retour à Québec l'année suivante, il l'a fait chanter dans une messe de minuit à Sillery. Et c'est la fille d'un juge là, de Québec qui l'a chanté pour la première fois. Et ce qu'on remarque dans les journaux début 20e siècle, c'est que ce sont des femmes souvent qui chantent le minuit chrétien, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt des ténors qu'on
Raoul Jobin,
entend
Richard Véroux. Et donc, on s'en va dans une interprétation de Richard Véroux, justement, et on vous revient tout de suite après.
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Passer la tâche originale et de son père arrêter la courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt.
Richard Véroux, ça reste une des grandes interprétations du minuit chrétien. Et justement, moi, quand je pense Noël, je pense toujours Richard Véroux, je pense toujours à minuit chrétien. C'est le cas, en fait, d'une bonne partie des gens du 20e siècle, mais bon, peu, en fait, au début du 20e, puisque Richard Véroux n'était pas encore né, mais on avait le minuit chrétien quand même à l'époque. Et donc, si on revient à l'histoire, en fait, du temps des fêtes, comme vous nous le mentionniez tout à l'heure, le temps des fêtes, en fait, à la base, pour les Canadiens français, c'était surtout le jour de l'an. Et donc, on fêtait surtout le jour de l'an. Quand est-ce qu'on va passer à Noël et comment va se faire le changement et qu'est-ce qu'on faisait au jour de l'an en tant que tel?
Le jour de l'an était vraiment un jour où on se visitait. Donc, dans les premiers jours de janvier, dernier jour de décembre, on faisait la visite des voisins, de la parenté. On se visitait en personne pour se souhaiter la bonne année, s'échanger des vœux et parfois s'échanger des étrennes, donc des petits cadeaux. Je parlais tout à l'heure de l'auteur Raymond Monpetit, qui a fait un livre sur l'histoire de Noël au Canada il y a quelques décennies déjà, mais là-dedans, il citait notamment des lettres des Jésuites qui pensionnaient quels sont les cadeaux qui étaient échangés à Québec. Donc, on voit que au jour de l'an, le gouverneur, les missionnaires, l'élite de la colonie, finalement, se visitent pour se souhaiter la bonne année et se donner des étrennes. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une tradition là, qui survit à la conquête et même jusque tard au 19e siècle. Puis même encore au début du 20e siècle, on voit qu'il y a encore des vœux du jour de l'an. Notamment dans le livre, on publie une petite publicité qui est très amusante là, d'un gin qui s'appelle le gin Croix-Rouge, où on dit dans la publicité que les vœux qui sont donnés avec du gin Croix-Rouge, ça se réalise plus, puis c'est gage d'une bonne année. Donc vraiment, début 20e siècle, on se souhaite encore la bonne année au jour de l'an et on se donne encore des étrennes. Par contre, comme je disais tout à l'heure, chez les anglophones, les cadeaux sont plutôt donnés à Noël et les vœux aussi, on se les échange, on se les dit à Noël. Donc, on a deux traditions qui cohabitent. Puis ce qu'on observe dans la deuxième moitié, dernier tiers du 19e siècle, c'est que les commerçants vont s'adapter à cette double réalité-là et on va y avoir finalement une période là, d'achat des cadeaux dans les magasins qui va être de plus en plus longue et où on va faire des publicités où on a des cadeaux de Noël et du jour de l'an. Et c'est très amusant de voir dans les publicités ces deux expressions-là. Le mot cadeau, le mot étrenne cohabitent pendant un temps, Noël et le jour de l'an. Donc, on verra vraiment les commerçants vont s'adapter et proposer des cadeaux pour les deux fêtes, pour les deux cultures, dépendant de à qui on s'adresse.
Et donc, c'est à cette époque que Noël devient commercial.
Mais c'est sûr que Noël, ça faisait long. Noël, avec l'arrivée des grands magasins hein, dans les villes, c'est sûr que là, on est dans ces grands magasins-là qui ont plusieurs étages. On en a plusieurs à Québec. J'ai parlé de Paquette tout à l'heure, mais il y a le Syndicat, il y a le magasin de la Liberté. Donc, tous ces grands magasins-là qui ont plusieurs étages, qui proposent une très grande variété de produits, des magasins qui sont souvent aussi très modernes, qui ont l'électricité, qui ont des ascenseurs. Donc, ce sont des temples de la consommation qui proposent toutes sortes de cadeaux. Et c'est vraiment l'arrivée de ces grands magasins-là aussi, dont beaucoup sont situés sur la rue Saint-Joseph, qui font démarrer là, une espèce de magasinage des fêtes. Et ces magasins-là ont des vitrines très attrayantes où on fait des montages avec des cadeaux de Noël. Donc, vraiment, c'est avec l'époque des grands magasins que là, vraiment, on assiste là, à la montée de ce magasinage de Noël. Mais bien entendu, c'est une partie de la population plus nantie qui a accès à ça. C'est pas tout le monde qui se donne des grands cadeaux, mais on voit vraiment qu'on s'en va vers un Noël un peu plus commercial, mais tranquillement pas vite, parce que pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à la Révolution tranquille, Noël est une fête religieuse. Il ne faut pas croire que parce qu'on se donne des cadeaux, c'est pas une fête religieuse à la base non plus.
Et ces cadeaux-là, ils peuvent ressembler à quoi, par exemple?
On a beaucoup d'informations dans les journaux sur les cadeaux qui sont donnés. On se donne beaucoup de vêtements au 19e, 20e siècle, des gants, on se donne des calepins, on peut se donner aussi des cadeaux un peu plus chics comme des jackets, on voit souvent ce mot-là, des manteaux de fourrure. On voit aussi dans les publicités parfois, là, on voit à quelle tranche de la population on s'adresse, mais on a des cadeaux pour la bonne. On a des sous-vêtements, on a des chemises, on a toutes sortes de choses, on a des livres, on a toutes sortes de choses qui peuvent se... des montres, des bijoux, évidemment. On a des bijouteries célèbres dans la ville de Québec de cette époque, notamment la bijouterie de Cyril Duquette, dont on parle dans le livre, bijoutier qui est en Haute-Ville, sur la rue Saint-Jean, où là, on a accès, évidemment, à toute une gamme de cadeaux. Donc, on a vraiment beaucoup de variétés. Et on a aussi des publicités de jouets. On en a quelques-unes qu'on a sélectionnées pour le livre, mais on a des trains, des poupées, on a toutes sortes de choses aussi là, dans ces publicités-là.
Et juste avant de se laisser, j'aimerais vous entendre sur la crèche de Noël. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Bon, comme vous le disiez, bon, oui, ça devient une fête commerciale, mais ça reste quand même une fête religieuse. Vous avez mentionné très brièvement tout à l'heure qu'il y en avait dès l'époque de la Nouvelle-France. Comment cette tradition-là va-t-elle se développer sur le temps long?
La crèche, c'est une vieille tradition qui remonte au Moyen Âge, hein? Mais dès les premiers temps du régime français, on fait des crèches dans les communautés religieuses, dans les couvents, dans les églises. Les missionnaires vont utiliser la crèche. On parlait de la musique tout à l'heure, mais la crèche aussi, c'est une façon de théâtraliser, de montrer, d'expliquer la fête de la nativité. Donc, on fait des crèches un peu partout. Un peu plus tard, on voit qu'il se crée entre les églises des compétitions, à savoir qui aurait la plus belle crèche. Donc, il y a des crèches dans les églises. C'est plutôt à la fin du 19e siècle qu'on va commencer à voir apparaître des crèches dans les maisons en tant que telles. Pendant très longtemps, les crèches, ce sont vraiment des rituels, des mises en scène qui sont réservées aux églises, aux couvents, aux communautés religieuses. Donc, c'est vraiment à la fin du 19e siècle qu'on commence à voir des crèches dans les maisons. Et les personnages aussi varient au fil du temps. Pendant un temps, on ajoutait les rois mages seulement quand on était rendu à l'Épiphanie, le 6 janvier. Ça aussi, ça évolue avec le temps, mais vraiment, la crèche, c'est un rituel qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Et je terminerai aussi avec l'anecdote des enfants Jésus de Cire. Donc, la crèche est à l'origine d'une pratique, là, d'un savoir-faire assez ancien qui a traversé l'océan avec les premières Augustines qui sont venues en Nouvelle-France. Donc, on avait des enfants Jésus faits en cire qui étaient là pour être dans les crèches. Et le premier enfant Jésus de cire connu aurait traversé l'océan en 1639 avec les Augustines, expressément pour le premier Noël dans la colonie. Et par la suite, bien, on en a fabriqué sur place et de nombreuses communautés religieuses fabriquaient des enfants Jésus de cire. Et c'est un savoir qui est encore pratiqué par seulement quelques personnes aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment un patrimoine qui remonte à loin. Et c'est la popularité des crèches qui explique qu'il y avait un marché, en quelque sorte, pour les enfants Jésus de cire. Et c'était quelque chose qu'on vendait pour financer aussi les œuvres dans les communautés religieuses féminines.
Fort intéressant. On vous invite à monter votre crèche si ce n'est pas déjà fait, à monter votre sapin si ce n'est pas déjà fait. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Un gros merci, Maria Voilette.
Ça fait plaisir.
Et donc, pour ceux qui le souhaitent, on peut trouver le petit ouvrage « La Noël au temps des carrioles, le temps des fêtes à Québec du 17e au 20e siècle des services historiques des six associés en librairie ». Marie-Ève Voilette sera également en conférence ce mardi 10 décembre à la Société historique de Québec pour parler plus amplement de ce livre et des traditions de Noël à Québec. Si le sujet vous intéresse, vous êtes entendu au Cégep Garneau. Et sur ce, on se laisse en musique avec une œuvre qui date d'après 1918, d'après l'ouvrage, mais qui montre justement qu'on continue à renouveler les traditions de Noël dans les années 20 avec une œuvre, et dans les années 30 avec une œuvre de la Bolduc. Voilà le Père Noël qui nous arrive. Et donc, on vous laisse sur cette sympathique œuvre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
C'est aux petits enfants que je m'adresse maintenant. Si vous voulez des présents, tâchez d'être obéissant. Voilà le Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étreintes, pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur.
Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur.
On s'en va au magasin pour s'acheter un beau sapin et aussi des petites bébelles pour garnir l'arbre de Noël. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étreintes, pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur.
Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur.
Il faut bien se préparer pour se voir la parenté. Des bons beignes et puis des pâtes, puis un bon ragoût de pâte. Voilà Père Noël qui nous arrive.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but!
À
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Sirky! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Au Grindel, on t'offre un super quiz Cheese spécial chanson de Noël. Oh, attends, me semble que j'ai fait drette ça l'an passé. OK. Foxa, j'ai une meilleure idée. Le 22 décembre, Cheese t'invite à un super quiz Cheese de fin d'année. Comme le bye-bye, mais pas de sketch, pas de faux maquillage, ni de controverses, juste de la musique et des événements musicaux parus dans les 12 derniers mois. Ben, venez chanter ça avec nous le dimanche 22 décembre prochain à 19h30 au Grindel. On s'y voit pour le dernier super quiz Cheese de l'année 2019.
Tu aimes la politique et entendre du monde chialer? Ne manque pas la nouvelle émission sur les ondes de Chiz 94.3, L'Affaire et politique.
Au menu, une foule d'invités questionnés sans filtre, des chroniques divertissantes, nouveaux genres, et le tout offert par une équipe de passionnés politiques.